retrouver le Libre Journal du lundi soir et toute l'équipe de Romain Petitjean. Voici la chronique de Patrick Simon. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Benoît. Alors je vais vous parler des racines du mal qui nous ronge. Le mal qui nous ronge, c'est la réglementation. L'homme est libre de choisir entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid, entre l'utile et le compliqué, entre le mystérieux et l'explicité. Mais certaines lois ou certaines règles ou arrêtés ou décrets qui se mêlent de la vie des individus permettent à l'homme, voire l'obligent, de faire le mauvais choix entre le vrai, le faux, le beau, le laid, l'utile et le compliqué. C'est ainsi que la multiplication des normes est venu empêcher les gens d'agir de façon simple, rapide et efficace. Par exemple, pour changer une ampoule dans une entreprise, eh bien, il faut un travailleur habilité, entre guillemets, habilité. On ne peut pas le faire soi-même. Ou pour qu'un agriculteur puisse utiliser son tracteur, il faut qu'il ne pleuve pas, de façon à ne pas éclabousser de boue la route à côté. Pour déplacer une couleuvre, il faut remplir un formulaire SERFA. Et ainsi de suite. Les contraintes sont devenues si lourdes qu'elles ont supprimé ou grandement affecté la vérité des prix. Alors, la vérité des prix, c'est le mécanisme le plus efficace pour coordonner spontanément les comportements humains grâce à la main invisible du marché. Et Olivier Babeau, dans Valeurs Actuelles, en a donné plusieurs illustrations. Les prix contrôlés, des loyers par exemple, ou plafonnés, retirent, écrit-il, toute incitation à l'économie et à l'investissement dans des alternatives. Deuxième exemple, le salaire réel qui est noyé en France par des prélèvements dits sociaux qui sont de plus en plus importants. Et je cite Babeau, « Un salarié qui perçoit une augmentation de 100 euros brut envoie peut-être 50 sur sa fiche de paie et 25 dans ses habitudes de consommation après impôt. L'écart vertigineux entre ce que coûte le travail et ce qu'il rapporte, ralentit, décourage les embauches, décourage l'effort supplémentaire, pénalise la mobilité ascendante. » Fin de citation. Autre illustration, notre système de retraite par répartition. Personne ne sait dans quelle mesure il cotise vraiment pour lui ou pour les autres. Alors, je continue les exemples donnés par Olivier Babeau dans son article. Les services de santé et d'éducation sont dits « gratuits », entre guillemets. Mais il faut bien qu'ils soient payés par quelqu'un, car rien n'est gratuit. Ce quelqu'un, c'est, vous le savez, le contribuable. Mais quand le coût d'un bien n'est pas perçu par celui qui le consomme, trois effets pervers se déclenchent inévitablement. La surconsommation, pensez aux médicaments, l'indifférence à la qualité, pensez à l'éducation, et l'irresponsabilité, d'où le gaspillage et la baisse de qualité de ses services. Dans l'éducation ou à l'hôpital. Ces brouillages des informations que la vérité des prix donnait a le résultat fâcheux que les individus perçoivent moins bien la valeur des biens et services qu'ils utilisent, donc la différence entre le vrai et le faux. On pourrait faire le même parallèle entre le beau et le laid, mais ce n'est pas assez de temps pour développer, entre le simple et le compliqué. Un certain nombre de brouillages de signaux sont intervenus qui rendent les choix plus difficiles. Je vous donne un exemple. La loi du plomb permet de ne pas gaspiller l'eau quand elle est en excès l'hiver, mais de la stocker dans des bassines pour pouvoir y puiser quand elle manque l'été. Eh bien, malheureusement, des arrêtés ministériels sont venus empêcher ça ou le rendre plus difficile, et des manifestations de gens violents, ce sont ce qu'on pourrait appeler les escroglogistes, écologistes, escroglogistes, s'y opposent. Et ce sont ces mauvaises règles d'arrêté ministériel et ces voyous malfaiteurs qui, ici, viennent brouiller les signaux. Enfin, dernière illustration, il paraît que les jeunes couples ont beaucoup moins de rapports sexuels qu'auparavant et ont davantage de troubles psychiatriques. Eh bien, la réponse à ce problème est donnée par le grand pédiatre Aldo Nauri, qui nous a quittés, et cette réponse est lapidaire. Voilà ce qu'il dit. On a tué le sexe en l'éduquant. Il faut lui laisser sa part de mystère. Fin de citation de Aldo Nauri. Eh bien, voilà encore un exemple où l'intervention du législateur pour obliger les écoles à dispenser des cours d'éducation sexuelle aux adolescents, où cette intervention a eu un effet nocif. Il est donc fréquent, c'est pas systématique, mais il est fréquent que la réglementation salisse ce qu'elle touche. Et c'est malheureusement beaucoup le cas dans notre beau pays. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Merci Patrick.
Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du libre journal Vive la civilisation européenne sur notre chère radio, Radio Courtoisie. J'espère que vous êtes branchés au poste, que vous soutenez la radio qui en a bien besoin. Pour notre part, avec Gabriel Fouquet, que je salue, nous sommes au rendez-vous et nous avons des invités de premier plan aujourd'hui. Marguerite Frison-Roche, bonsoir.
Bonsoir.
Hubert Calmette est en visio. Est-ce que vous nous entendez bien, Hubert ?
Bonsoir Romain, bonsoir Marguerite, bonsoir Gabriel, absolument.
Très bien, nous aurons tout à l'heure une intervention en visio de Raphaël Emma, auditeur de la promotion Mistral dans le sud de la France, et Stanislas et Baptiste nous interviendront en fin d'émission pour nous raconter leur déboire d'une conférence dans les jours qui viennent de s'écouler. Alors, politique culturelle, reprendre la main. Parmi les 25 milliards d'euros annuels alloués au budget de la culture, moins d'un tiers irrigue réellement les territoires. Depuis 40 ans, le ministère, ses DRAC et ses technocrates parisiens promeuvent une culture hors sol et centraliste. Il est temps de passer à l'offensive. Le Puy du Fou, 2,5 millions de visiteurs, 96% autofinancés. Nado, on en a parlé il y a 2-3 émissions, qui remplit le Palais des Congrès sans aucune promotion de France Inter ou que sais-je. Le succès de la Feria d'Arles, qui ne se dément pas, ou du Festival Photo de la Galicie, quelle que soit l'étiquette de leur maire, montre bien qu'une autre politique est possible. La vraie fracture est-elle réellement partisane, au sens du clivage gauche-droite, ou plutôt idéologique, entre ceux qui transmettent une civilisation vivante et ceux qui la diluent, entre ceux qui rassemblent et élèvent le peuple par le beau, et les fossoyeurs de tout cadre éthique et esthétique commun, au motif que tout serait culture. Et si tout est culture, plus rien ne l'est. Reste encore à définir clairement ce que serait une véritable politique culturelle enracinée. Car la culture gadget, propre à la société de consommation, domine. Et il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui relève de l'accessoire, de la réelle culture, enracinée par définition. Cette nécessité obligera le camp patriote, le camp identitaire, à entrer dans l'arène, où il devra prouver que ses intentions ne relèvent pas d'un attachement poussiéreux et réactionnaire aux vieilles pierres, mais bien d'une architecture pour l'avenir, solidement ancrée dans les fondations pluriséculaires de la France et de l'Europe. Viendra alors le temps de l'action. Oser prendre des initiatives dans un contexte hostile où, il faut le dire, la droite manque singulièrement d'audace, d'imagination et de curiosité, sans parler de stratégie. Nous mettrons donc avec nos invités sur la table un certain nombre de sujets. Les alliances culturelles, au-delà des étiquettes, est-ce un reniement ou est-ce intelligent ? La multiplication des initiatives, les murmures de la cité, l'association Arcade, les festivals de musique traditionnelle, faut-il les coordonner ou les laisser essaimer de façon autonome ? Et ensuite, face au harcèlement, parce qu'il s'agit réellement d'un harcèlement de la gauche, leurs pétitions, leur retrait de subventions, leur intimidation, faut-il contre-attaquer ou les contourner ? Enfin, les outils disponibles, il y en a beaucoup. Les DRAC, on en a parlé, le 1% artistique, la politique de mécénat, les budgets municipaux, faut-il les réformer ou s'en emparer ? Ensemble, menons un débat concret sur les possibilités réelles qui s'offrent à nous dans les champs locaux, nationaux et européens. De quoi esquisser peut-être ce soir un véritable manuel de combat culturel. Pour en discuter, je vous les représente, Marguerite Frison-Roche, diplômée de Sciences Po, de la Sorbonne et de la Scala de Milan, et fondatrice surtout du think tank Disruptif. Elle travaille depuis plusieurs années sur la réforme des politiques culturelles par les institutions et plaide pour réinvestir l'échelon local comme levier décisif. Hubert Calmette, lui, est spécialiste du marketing de l'offre. Il est essayiste, contributeur d'Éléments et de Polémia. Il est intervenant au sein des formations et des colloques de l'Institut Iliade. Et il plaide pour une voie claire. Assumer l'offre, assumer une contre-culture. Reconquérir le peuple par une offre dissidente forte sans attendre que les institutions bougent. Il est l'auteur du guide marketing de la dissidence aux éditions de la Nouvelle Librairie. Voilà un programme, ma foi, fort riche. J'espère que le temps ne sera pas trop court. Hein. C'est une émission toujours intense. Alors, je vais me tourner vers Marguerite Frison-Roche, qui est dans le studio. Une question, vous suivez justement ce travail institutionnel. Quel est l'état, justement, de votre réflexion ? Est-ce que vous pensez que ces outils sont... adaptable ? Est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, s'en emparer ou eux-mêmes portent finalement un problème puisqu'ils sont coupés d'une forme d'énergie locale, d'une forme de liberté culturelle et identitaire qu'on pourrait trouver dans nos territoires ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas opposer les institutions parisiennes d'une part et les institutions qui seraient dans le reste de la France. Et de manière générale, j'ai tendance à penser qu'il faut utiliser les outils dont on dispose. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par faire la révolution en voulant faire table rase de tout ce qui préexiste, mais au contraire, essayer de rentrer dans ces institutions, d'utiliser les règles qui sont à notre portée. Et ensuite, on verra si on change, si un jour on est majoritaire, si un jour le peuple décide de faire autrement, c'est la démocratie, on changera les règles. Mais pour l'instant, on utilise les règles qui sont à notre portée. Et donc, les différents outils qu'on peut avoir, le 1% artistique, les institutions, il faut savoir finement le faire. Et je pense qu'en fonction des outils, ça n'est pas la même complexité pour les mettre en œuvre. Typiquement, aujourd'hui, un maire, et moi j'accompagne beaucoup d'élus qui viennent en plus d'arriver dans les mairies, pour essayer de redessiner une politique culturelle qui leur plaise, qui aille avec qui soit cohérente avec leur mandat et leur politique générale. Là, il y a vraiment une marge de manœuvre à faire et on utilise les institutions, leurs affaires culturelles locales, on peut l'utiliser.
Et quand ils se présentent à vous, ils ont déjà une vision où ils sont finalement un peu nus en se disant, ben, finalement, la culture, on ne s'en est pas réellement préoccupé. Hein. On dit souvent que De Gaulle avait donné la culture comme à Malraux, un peu comme un os à ronger pour se consacrer aux régaliens. Et on voit avec, d'une certaine façon, quel dégât ça a fait.
Alors, je pense qu'il y a deux questions. Je pense que De Gaulle s'est permis de le donner à Malraux parce que, un, Malraux avait l'étoffe d'un ministre, même si c'était pas forcément toujours mes idées et qui venait du communisme. Mais Malraux a pu faire tout ce qu'il a pu faire parce qu'il était soutenu par De Gaulle. Aujourd'hui, on a des ministres de la Culture qui sont pas soutenus par qui sont déjà pas du niveau de Malraux et qui sont pas soutenus par leur président de la République qui ne mettent aucun accent sur la culture. Donc, mais là, c'est un autre débat. Pour les maires, je pense qu'il y a deux sociologies. Il y en a beaucoup qui sont démunis. Et qui sentent que c'est important, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui n'ont pas les réseaux, pas les idées, pas les artistes nécessaires, pas les leviers financiers pour pouvoir faire des choses d'envergure et avec de la qualité. Et il y en a certains qui ont déjà une idée, c'est plus rare, mais qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire pour leur ville, et surtout qui ont compris que la culture était un vrai levier, surtout sur lesquels on ne les attendait pas. C'est-à-dire un levier de développement et de rayonnement.
Et pour ceux justement qui ont un peu une vision culturelle pour leur ville, leur région, leur département, ils savent se saisir de ces outils dont on parlait qui existent ou ils se retrouvent un peu dans ce maelstrom, on peut imaginer tout un millefeuille administratif.
Ah oui. Enfin, je pense qu'ils ne savent pas forcément comment faire et moi c'est ce que j'avais identifié comme problématique et c'est pour ça que j'essaie de les aider à utiliser tous ces leviers, mais ils se disent au contraire qu'ils arrivent plutôt dans un panier de crabes, c'est-à-dire qu'ils veulent investir le monde de la culture, mais ils savent que la plupart des personnes vont être contre elles, contre eux, les maires, pardon, que leur directeur des affaires culturelles ne va pas être de la même obédience politique et va tout faire pour leur proposer, par exemple, des spectacles ou faire un premier tri qui aille dans leur sens plutôt que dans le sens du maire. Et comme eux n'ont pas le temps de s'occuper de la programmation culturelle, de tous ces grands chantiers, ils vont être forcés de décider très rapidement entre deux réunions. Alors que les personnes qui... Enfin, ils n'ont pas confiance dans les personnes qui les entourent, mais parce qu'ils ont d'autres sujets plus prioritaires à leurs yeux, et c'est pas...
Oui,
et je
leur
en veux pas. Voilà, c'est ça, ils vont être attendus sur la sécurité, sur la propreté de la ville, et donc la culture, comme à chaque fois, arrive un peu au dernier... à la fin de la liste, et donc je pense qu'ils sont un peu démunis justement sur comment faire.
Vous, Hubert Calmette, que ce soit dans votre pays, l'Aveyron, mais aussi sur d'autres provinces que vous sillonnez régulièrement, ce rapport entre l'énergie, la volonté que certains édiles ont à vouloir mettre en place une politique culturelle et les échelons administratifs, étatiques qui existent, est-ce que ça fonctionne bien, c'est fluide ou est-ce qu'il y a des anicroches finalement ?
Oui, il y a des anicroches, mais je partage avec Marguerite l'idée qu'il ne faut pas faire table rase des dispositifs. Car les dispositifs sont ce qu'ils sont et la notion de table rase en la matière n'est pas forcément toujours très fructueuse. La bonne nouvelle dans cette histoire, puisque j'ai pas mal sévi dans le marketing territorial et le conseil en marketing territorial des collectivités, c'est que ces collectivités sont en recherche de différenciation. C'est aujourd'hui l'obsession d'une collectivité, quelle qu'elle soit, hein, qu'on soit au niveau régional, local, départemental, même au niveau des métropoles, on veut, coûte que coûte, identifier des différences. Et cette notion de différenciation les amène et nous amène à proposer à ces collectivités des portraits identitaires du territoire. On commence une démarche de marketing territorial. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, hein, jusqu'à... Il y a jusqu'à une dizaine d'années, ça n'était pas le cas. Et aujourd'hui, on démarre une démarche de marketing territorial par un portrait identitaire du territoire. Ce qui veut dire que, administratif, divers et variés, des structures compliquées à activer, il y a au moins au départ, ce qui était loin d'être le cas il y a quelques années, une motivation des élus, une motivation très forte des élus à trouver de la différenciation, de l'enracinement, de la typicité, à quelques exceptions près. Il est évident que selon les obédiences politiques, on va avoir une sensibilité plus ou moins forte sur ces sujets. Mais je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle de voir en termes de façon d'approcher la problématique de l'attractivité territoriale, cette notion de différenciation qui dit différenciation au sens marketing du terme, dit différenciation au niveau culturel, évidemment. Une terre sécrète un peuple qui sécrète une culture qui est en résonance avec cette terre. Et ça, pas mal d'élus l'ont compris. Et ils ont compris que le peuple de ces collectivités, le peuple de ces territoires, sont de plus en plus intéressés à cet ancrage.
Ça traverse tout le spectre politique.
Justement pas, c'est ce que je disais. Évidemment pas. Il est évident que quand on est à la gauche de la gauche, on va défendre des visions qui s'éloigne du territoire, du terroir, et on va même trouver suspect, hein, l'attachement au territoire. Je vous renvoie à la polémique sur le canon français, toutes ces histoires, tout ce qui est de près ou de loin identitaire, ancré, est immédiatement taxé de fasciste par la gauche de la gauche. Donc il est évident que lorsqu'on est dans cette obédience-là, on va marquer une différence. Mais la plupart des élus, aujourd'hui, y compris les élus de gauche, hein, d'ailleurs, hein, je le dis très clairement, sont aujourd'hui en recherche d'éléments ancrés qui permettent de retrouver du sens pour la communication du territoire, pour son attractivité, parce que si vous vous battez, quand vous cherchez à attirer, par exemple, des talents, c'est quand même un enjeu fondamental. Si vous vous battez avec des basiques, hein, infrastructures de communication, etc., etc., eh bien, au bout du compte, rien ne vous différencie. C'est bien l'offre culturelle, c'est bien tout ce qui va permettre de vivre quelque part de façon intéressante, qui va être un élément de différenciation, un avantage concurrentiel considérable par rapport à un autre territoire. Donc la bonne nouvelle, c'est que curieusement, un certain marketing, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le marketing de l'offre, rejoint les objectifs que nous pourrions partager ici, si je comprends bien, d'une culture enracinée, avec évidemment beaucoup de réserves, parce que ce qui nous guette, le danger qui nous guette, c'est toujours le clientélisme à deux balles, hein, c'est-à-dire cette tentation de confondre culture et divertissement, et la marchandisation de la culture.
Et bonsoir Hubert, bonsoir Marguerite. Justement, cette question de différenciation entre culture et divertissement, elle est vraiment, pour le coup, on arrive vraiment dans la question même sémantique du mot culture. Et si on est cohérent de bout en bout, cette différenciation, elle doit être clairement identifiée et décidée par le pouvoir en place, qu'il soit d'autorité locale ou nationale. Moi, je ne suis pas particulièrement pour le fait que les très hauts ministères nous disent ce qui est culturel ou pas. Vous mentionnez une demande et une prise de conscience des territoires de leur singularité. Néanmoins, on voit que ces dernières années, la plupart des projets territoriaux qui ont été soutenus, qui, on va dire, auraient une couleur identitaire, mais pas identitaire même dans le sens politique, mais on va dire qui se rapproche vraiment de l'identité propre d'un peuple, ont quand même longtemps flirté avec le folklorisme de bas étage. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on tombe pas juste dans le divertissement? L'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui des fest-noz, où on en voit s'égrener partout, souvent avec même des déviances dans la pratique traditionnelle de ces danses-là. J'étais encore ce week-end à un bal traditionnel où nos professeurs ont beaucoup, beaucoup insisté sur le fait qu'on dansait d'une telle manière et pas d'une autre dans telle région et à tel moment. Et en même temps, on pourrait tout à fait répondre à tous ces gens-là qui veulent mettre en avant une couleur locale, que si on n'accorde pas un peu d'espace au divertissement pour amener à la culture, on n'arrive jamais à atteindre le public sur la culture propre. Donc comment est-ce qu'on fait la distinction? Et comment est-ce qu'on la propose correctement?
Hubert Calmette, et puis ensuite Marguerite Frison-Roche sur cette distinction qui est vraiment importante, oui.
Elle est centrale. Moi, ce que vous dites là me rappelle ce que disait Arnold Gehlen à ce sujet, à propos de la culture occidentale comme nouveau primitivisme. En réalité, il distinguait trois formes d'offres culturelles en Occident, qui est l'offre de culture de masse, qui rejoint le divertissement, l'amusement, et dont l'étalon est économique, purement économique. C'est le box-office, c'est le taux de pénétration de telle ou telle œuvre, c'est évidemment le taux de notoriété spontanée de tel ou tel artiste. La deuxième forme de culture est une culture plus élitaire, qui est généralement déracinée, désincarnée. Hein, on se méfie du beau, hein, le beau est suspect. Chez une certaine élite, etc., etc., ce qui est populaire, vulgaire, populiste, etc. Et puis il y a la troisième forme, qui est la culture traditionnelle muséifiée, qui est folklorisée, pour rejoindre votre terme. Et dans les trois cas, c'est ce qui est terrible dans cette histoire, dans les trois cas, on oublie la notion de tradition vivante, de culture vivante. La marchandisation renvoie à une donnée purement économique. la culture élitaire est vraiment pour le happy few, hein, pardon du terme, mais c'est vraiment l'histoire qui ne concerne personne et qui est souvent d'ailleurs totalement un registre d'abstraction totalement désincarné. Et la tradition, on va dire, la culture muséifiée est par essence la culture du laudator temporis acti, hein, du louangeur du temps révolu, c'est-à-dire l'archaïsme, qui n'est pas la tradition et qui n'est pas la culture enracinée, hein, qui est plus archéo-futuriste quelque part, hein, qui est plus nietzschéenne dans l'esprit. Donc on a effectivement la nécessité de distinguer cela et de mettre en lumière le fait qu'une culture, pour qu'elle soit en dynamique pour un territoire, doit être une culture vivante. Parler des fest-noz, c'est un très bel exemple, la culture celtique, on va dire, de la régénération d'un registre musical et tout ce qui va avec, qui, jusqu'aux années 70, était tombé dans l'oubli et qui, grâce à quelques artistes qui ont su inscrire ce registre-là dans la modernité, mais une modernité enracinée, hein, une modernité postmoderne, archéo-futuriste, ben, ont su régénérer un patrimoine. Pour moi, c'est le très bon exemple de la régénération culturelle, hein, la régénération de la musique celtique et bretonne.
Je me tourne, Hubert Calmette, je vais me tourner vers Marguerite Frison-Roche sur cette question de la culture vivante et du divertissement. Est-ce que, quand vous discutez avec les maires, est-ce qu'on vous discutez avec la population, vous avez un petit peu ce constat-là, c'est-à-dire que finalement on bricole des produits culturels sans qu'il n'y ait de réelle énergie sincère et populaire d'un peuple vivant qui sécrète sa propre culture. En gros, c'est un peu ce que dit Hubert Calmette, quand il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de culture. Et aujourd'hui, on est presque à une sorte d'agrégat d'individus.
Complètement. Et pour moi, je ferai une distinction entre divertissement, qui en soi n'est pas un mal. C'est que derrière divertissement, on entend plutôt abrutissement et kitsch et folklore. Et voilà. Alors qu'en soi, c'est pas un mal de vouloir se divertir avec la culture. Au contraire, c'est quand vous regardez un film, vous allez au théâtre, c'est pour vous divertir, pour vous instruire aussi, mais pour vous divertir. Donc je pense que derrière le mot divertissement, on met deux choses différentes. Et quand nous, on parle de divertissement de manière péjorative, c'est qu'on y voit une forme, c'est ça, d'abrutissement de la population, alors que moi, je cherche plutôt à revenir à la vision de Malraux, qui est essayer d'élever un maximum de personnes vers les chefs-d'œuvre, plutôt que d'abaisser le niveau de la culture à un niveau médiocre, sous prétexte qu'il faudrait s'adapter à tout le monde. Donc, je pense que c'est aussi le fruit d'une éducation, et donc le fruit d'une ambition aussi pour les décideurs publics, notamment les maires, qui ont une vraie... un vrai pouvoir de décision sur la politique culturelle, et donc un vrai pouvoir pour toucher les gens. C'est les élus qui sont les premiers au contact avec les Français dans la politique culturelle. Et donc le but est d'être le plus exigeant possible, tout sans sombrer dans le côté élitiste. Donc ça, c'est justement ça la nuance. Et j'étais tout à fait d'accord avec les trois distinctions. Il y a le côté, si on est trop élitiste et qu'on cherche simplement à faire quelque chose pour un happy few, ça va pas. Enfin, je veux dire, c'est qu'on a raté son pari. Ce qu'il faut, c'est faire quelque chose de très exigeant, promouvoir une forme d'excellence, et à la fois ça doit parler à tout le monde. C'est ça le plus dur.
J'ai discuté récemment avec un directeur de théâtre et programmateur culturel en plus, qui me disait qu'il y avait quand même quelque chose aussi de désespérant dans leur propre mission, c'est-à-dire que souvent ces gens-là aiment leur domaine. Vous ne devenez pas programmateur de théâtre et directeur de théâtre si vous n'aimez pas vraiment la scène.
Oui.
C'est pas un métier qu'on fait de façon anecdotique, comme on peut se retrouver parachuteur, directeur d'une antenne X dans une entreprise grand public.
Bien sûr.
Il me dit qu'il y a quelque chose de désespérant parce que lui met tous ses contacts en œuvre pour avoir une belle programmation théâtrale dans l'endroit où il travaille. Et malgré ça, il dit que les spectacles finalement qu'on lui demande le plus, que la population lui demande le plus et qui rapportent, soyons honnêtes, le plus d'argent à la ville pour laquelle il travaille, sont ceux qui sont paradoxalement pas particulièrement artistiquement ambitieux. Moi, j'ai rien contre les jeunes chanteurs, hein, mais il vous dit, je propose un opéra, j'ai plein d'adultes, c'est super. Mais par contre, je remplis pas toujours ma salle. Par contre, j'arrive à avoir une date avec le numéro 3 de la Star Academy cette année. Et là, mon zénith, il est plein. Donc au bout d'un moment, on n'a presque plus envie de se battre. Si le public, c'est-à-dire que si on a l'ambition, est-ce qu'il y a vraiment une telle dissonance entre l'ambition incarnée, institutionnelle ou même marketing de gens qualifiés et finalement les attentes d'un peuple qui ne sait plus qui il est. Est-ce que l'erreur est dans la... Est-ce qu'on est tombé trop bas dans l'abrutissement du public et que finalement c'est un combat perdu? Ou est-ce qu'il y a juste un problème de dialogue, à votre avis, à tous les deux?
Très rapidement, avant une première pause musicale, Marguerite Frison-Roche.
Moi, je pense que c'est on paye les conséquences de 50 ans d'abrutissement, quand même, de baisse de niveau de l'éducation nationale. Je pense que c'est vraiment ça le premier problème, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins mis en contact avec des chefs-d'œuvre, on est de moins en moins éduqué, et si vous n'avez pas des parents qui pallient ces défauts d'éducation de l'éducation nationale, vous n'êtes pas mis en contact avec des chefs-d'œuvre, et c'est pas naturel d'aimer Wagner à 9 ans, et donc vous avez plus de mal, et vous allez aller vers des choses de plus en plus simples, mais c'est valable pour la musique, c'est valable pour la littérature, c'est valable pour même pour peinture. Le goût, le palais, même vous avez du mal à... Vous allez aimer des trucs faciles à manger et sucrés et préférer McDo à des trucs plus acides. Enfin, on peut le décliner dans plein de trucs. Donc je pense que malheureusement, ce n'est pas un problème de dialogue d'institution. Enfin, c'est plutôt 50 ans d'abrutissement.
Chers amis, Pierre Le Prince n'est pas là, mais il vous salue. Et il vous propose de découvrir l'œuvre de Gabriel Fauré, l'un des plus grands compositeurs français, figure majeure de la transition entre le romantisme et la modernité. Et nous écoutons à présent un extrait de sa célèbre pièce « Péléas et Mélisande ».
Thank you. Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Nous revoilà en studio avec Hubert Calmette qui est là en visio et Marguerite Frison-Roche. Nous continuons notre discussion sur la politique culturelle. Nous avons évoqué tout à l'heure la ville d'Arles. En plus, je vois Raphaël Emma qui est arrivé en visio. Alors tout de suite, je pense au taureau. Il y a eu d'ailleurs un très beau, très belle vidéo de Laurent de Vivre Européen en immersion à Aix-en-Provence, dans la Provence, dans le pays du taureau. Je vous invite grandement à regarder cette vidéo. Si on parle d'Arles, justement, il y a quelque chose qui est marquant, c'est que les étiquettes politiques des maires se sont succédées. Et on a eu un maire communiste pendant des années. Je crois que maintenant, c'est Crypto LR avec Carolis ou le suivant. Et pourtant, la feria, la culture taurine continue. C'est une permanence puisqu'il y a un peuple qui fait vivre, qui sécrète cette culture, pour reprendre ce que disait Hubert Calmette. Prenons un autre exemple, la cinécénie du Puy du Fou, c'est ce fait grâce au tissu des bénévoles, des volontaires, dans un endroit, un terreau fertile, où l'histoire des Vendéens a permis à ce peuple de se mettre en marche et avec fierté l'envie de faire vivre son histoire. Est-ce que là, on n'est pas dans des cas particuliers qui ne sont pas reproductibles ailleurs? Et est-ce que si la vraie culture enracinée, qui est un oxymore, ne peut se faire que là où il reste des peuples vivants, comme en Camargue ou en Vendée, le reste, c'est finalement le terrain de jeu de la culture gadget? Comment fait-on face à ce dilemme?
Je pense qu'on peut ressusciter une culture locale et que chaque, on en parlait au début de l'émission, mais chaque territoire n'a peut-être pas une identité aussi forte que la Vendée ou que la Camargue, mais ils ont un patrimoine matériel et immatériel qu'on peut ressusciter, ça prendra plus de temps. L'attachement ne sera peut-être pas le même, mais à mon avis, on peut reproduire, en tout cas, pas forcément des spectacles à l'identique. On ne pourra pas refaire la cinécénie ni le Puy du Fou, ça c'est un leurre, je pense qu'on ne peut pas faire des Puy du Fou ailleurs. En revanche, on peut utiliser des recettes du spectacle vivant et essayer de faire des spectacles vivants. D'ailleurs, il y a déjà plusieurs initiatives, et il me semble qu'à Carpentras, il y en a une en ce moment qui essaye d'être montée, de faire des spectacles vivants qui parlent de l'histoire locale avec des bénévoles locaux, et qui se sentent impliqués parce que c'est leur histoire, et ils le seraient moins pour un projet qui ne parle pas de leur histoire. Donc je ne pense pas que ce soit... Ça va être plus dur, évidemment.
C'est ça, c'est plus dur, c'est plus long. On peut se rappeler aussi de l'épisode de... Il y avait eu le projet de lancer un label des plus belles fêtes de France, qui était une... Comme il y a les villages fleuris, etc. C'était plutôt un beau, une belle initiative, et qui, là, s'est retrouvé complètement bloqué par justement l'extrême gauche qui a pas apprécié le fait que certaines droites ou un camp qui a l'amour de l'enracinement puisse mettre ses pieds là-dedans, et a bloqué complètement le système. Si bien que on peut comptabiliser aujourd'hui le nombre de fêtes en France qui disparaissent, c'est-à-dire le tissu bénévole s'écroule. Une économie très 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 fragile, et finalement d'une année sur l'autre un bilan un peu négatif, ça disparaît. Donc il y a effectivement les grosses fêtes qui se maintiennent, et sinon le constat, il est plutôt assez délétère, avec des fêtes traditionnelles qui disparaissent des dizaines et des dizaines chaque année. Hubert Calmette, ça c'est quelque chose que vous constatez ou pas? On vous entend pas, on vous entend plus.
Vous m'entendez plus?
Ça y est, c'est bon, parfait.
C'est bon?
Oui.
En même temps, je vais une fois de plus apporter une petite note positive dans votre constat. L'affaire n'est pas seulement idéologique en réalité. La tentation de l'élu en matière culturelle, elle est assez classique finalement, c'est une tentation de saupoudrage. Car l'élu par définition, il est en quête d'un nouveau mandat, en quête d'un strapontin, et il va faire du clientélisme. Donc très souvent, le principal problème n'est pas de dire « j'ai des idées politiques très marquées, je vais chercher à sélectionner des opérations qui sont en phase avec cette vision du monde ». C'est parfois le cas, hein. Je ne fais pas du tout de l'angélisme là, hein, soyons clairs. Mais la plupart du temps, sur le terrain, vous avez affaire à des élus qui se disent bah, « je ne vais pas arbitrer, je ne vais pas remettre en question la subvention à une association culturelle qui, depuis la nuit des temps, perçoit ceci et cela », etc., etc. Or, notre travail hein, de consultants sur le marketing territorial, etc., est de leur expliquer qu'ils ont intérêt à choisir pour émerger, c'est-à-dire envoyer une fois de plus de l'argent sur quelque chose qui a du sens en lien avec le territoire et qui va permettre à la collectivité et permettre à cet élu, parce qu'au bout du compte, s'il a un objectif électoral personnel, c'est lui qui va en tirer des bénéfices, un bénéfice politique, qui va leur permettre de sortir du lot. Mais je crois que le principal problème, quand on est sur le terrain, c'est ça, c'est le saupoudrage, hein, qui ne permet pas, sur les territoires ruraux en particulier, d'avoir l'émergence d'opérations, de manifestations, d'expositions significatives, et surtout qui s'inscrivent dans la durée. Alors, il est vrai que les associations les plus actives pour drainer les subventions des collectivités locales sont des associations culturelles très connotées politiquement, incontestablement. Là encore, c'est peut-être même un pléonasme quand on parle d'associations culturelles de gauche. Hein, c'est une évidence depuis pas mal de temps. Ça fait longtemps que la gauche a compris qu'il fallait conquérir le pouvoir culturel avant de conquérir le pouvoir politique. Hein, c'est, Gramsci l'avait dit il y a pas mal de temps de cela. Et je pense que le problème est aussi celui-là. Donc, faire finalement de l'éducation d'élus, sélectionner, faites d'abord l'inventaire des portraits le portrait identitaire de votre territoire, l'inventaire des éléments qui font sens pour votre territoire, et choisissez. Quitte à on va dire, remettre en question telle ou telle subvention, ce qui va créer des frictions, mais qui, au bout du compte, va vous permettre d'exister de façon significative avec une opération.
Je voudrais quand même émettre une petite opposition à l'idée qu'il n'y a que, finalement, les associations de gauche qui seraient vraiment actives. Je trouve que notre génération a vu naître depuis quelques années des associations qui, honnêtement, on peut les qualifier, si ce n'est de droite, au moins attaché au patrimoine traditionnel émergé. Arcade est né, on a vu le Cœur Saint-Longin qui fait du très beau travail sur le chant classique. On voit quand même une rupture générationnelle de plus en plus forte qui en plus a un autre mérite, c'est que certes elle a peut-être pas la culture d'aller chercher la subvention, mais par contre elle a le dynamisme de la visibilité. Et elles n'ont pas peur de s'imposer dans l'espace public, ce que pendant des années, les associations culturelles qu'on qualifiait de droite n'osaient pas faire, il ne fallait surtout pas prendre de risques. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dessus un changement qui s'opère, qui est positif, et qui rabat un peu les cartes, et qui oblige les associations dites de gauche, parce que tu me dis, c'est aussi un pléonasme, à revoir leur propre stratégie, puisqu'elles peuvent désormais être en concurrence avec des gens qui n'ont plus peur de leur hégémonie. Est-ce que c'est un phénomène qu'on doit prendre en compte ou pas?
Marguerite Frison-Roche.
Moi, je pense en effet qu'il y a un effet générationnel, et on en est la preuve toutes les deux. Il n'y avait pas ce phénomène-là il y a encore 30 ans, et je pense que de plus en plus de personnes de notre sensibilité qui aiment le patrimoine, la culture française, osent maintenant aller plus dans ce genre de métier orienté vers la culture, alors qu'avant on aurait essayé de nous en dissuader. Je pense que ça reste quand même un problème à droite, le fait de ne pas vouloir envoyer ses enfants faire des études artistiques et toujours préférer des métiers plus rassurants comme avocat ou faire des écoles de commerce. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs, de comédiens, de musiciens, de personnes qui s'investissent, et notamment dans le tissu associatif, ce qu'on ne voyait pas il y a 20 ou 30 ans, et à mon avis ça participe d'un phénomène bien plus large que le monde de la culture, mais on le voit aussi dans le monde des médias, ce qui va dans la bataille culturelle à la Gramsci, c'est vraiment de se dire, dans les médias, dans les écoles, des professeurs qui osent prendre la parole, voilà, je pense que tout ça est un climat où très lentement la droite ose enfin parler, parce que je pense qu'on avait atteint, on avait touché le fond de la piscine, donc on ose enfin revenir. Il ne faut pas non plus se féliciter trop vite, on est loin d'avoir fini ce débat-là, mais je pense qu'il y a un vrai, mouvement qu'on peut saluer de personnes qui assument leurs idées.
On a deux invités positifs. Voilà,
ça nous arrive rarement, c'est
agréable à entendre.
Ça nous arrive rarement, et donc pour nos auditeurs qui nous connaissent pas, l'Institut Iliade n'est pas quelque chose de triste.
Alors Raphaël Emma, on va voir sur quel ton il va nous faire danser avec sa chronique. Raphaël, depuis votre chère Provence, le micro est à vous.
Bonsoir. Alors évidemment, on l'a évoqué un petit peu tout au long de l'émission, les enjeux de politique culturelle, c'est des enjeux qui sont politiques par essence. Et parce qu'ils sont des enjeux politiques, je crois que c'est aussi des véritables terrains de bataille sur lesquels on doit se positionner à droite, et je viens pas de l'inventer, ça fait au moins depuis les années 70-80 que l'extrême droite française, la droite nationale française, se dit qu'elle doit aller absolument mener la bataille culturelle. Et pour mener des batailles politiques, précisément, il faut comprendre des conjonctures. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'une conjoncture que je crois identifiée en France et qui, je crois, est sous-estimée, qui a tout à fait trait à la culture, même qui est centrale dans les questions culturelles. Vous avez évoqué la ville d'Arles, qui est, je crois, le phénomène de décentralisation, ou du moins de revendication décentralisatrice en France, qu'il me semble voir émerger depuis peut-être une dizaine d'années. Alors, il y a des mouvements historiques et politiques qui éclatent avec fracas et d'autres qui avancent à pas feutrés. Ils ne remplissent pas les colonnes des journaux, ils ne provoquent pas de grands bouleversements institutionnels immédiats, mais ils travaillent en profondeur les consciences collectives, l'imaginaire populaire, précisément ce qui compose justement la culture. Depuis plusieurs années, la France connaît précisément, selon moi, l'un de ces phénomènes. De la Bretagne à l'Alsace, de la Corse à l'Occitanie, en passant par la Provence, un nombre croissant de Français redécouvre son appartenance régionale, ses appartenances régionales, et revendique une part d'héritage particulière que l'on croyait condamnée à disparaître dans un grand mouvement d'uniformisation moderne, mais aussi de jacobinisme très français. Ce retour des identités régionales, ce n'est pas une nostalgie passagère, parce que, comme on va voir, c'est un phénomène qui a des traductions politiques qui peuvent se traduire avec des statistiques et des chiffres. Justement, des chiffres, parlons-en. Plusieurs enquêtes d'opinion ont enquêté justement sur ces revendications dans les 10 dernières années. En Bretagne, selon plusieurs diverses enquêtes réalisées, entre 7 ou 8 habitants sur 10 affirment être fortement attachés à leur identité bretonne et 9 la place au-dessus précisément de l'identité française. En Corse, les partis autonomistes ou régionalistes, on le sait depuis les derniers scrutins électoraux, occupent une place dominante dans la vie politique locale. Mais pas que, on peut aussi noter le fait que des versions plus à droite qu'eux émergent. Je vous pense maintenant à l'expérience du parti Mossa Palatino, une association précisément qui s'était revendiquée d'abord comme culturelle bretonne, de tendance identitaire, avec une opposition à l'immigration, à l'invasion migratoire, qui a réalisé ses premières percées électorales lors des dernières élections municipales corse, notamment à Bastia, où ils avaient présenté leur tête de file Nicolas Battini. En Alsace, vous avez eu un phénomène avec la suppression de la région historique dans le cadre de la réforme des régions, précisément, qui a mené à une gronde telle que l'État a été obligé de créer une collectivité européenne d'Alsace en 2021 qui reconnaissait au moins en partie la singularité du territoire en reprenant les frontières historiques que les Alsaciens projetaient au-delà de la découpe administrative française sur leur territoire. Ces exemples, ils disent quelque chose, et au-delà de ces exemples qui sont des grands phénomènes politiques et statistiques, vous avez aussi, on va dire, des signaux faibles comme l'émergence de plus en plus de festivals consacrés aux traditions locales ou, pour vous parler d'une expérience très personnelle, par exemple, la popularité grandissante de fêtes qui ont des connotations régionales. Je pense notamment à la Saint-Jean d'Aix-en-Provence, qui est une fête qui, à l'occasion de la Saint-Jean catholique, utilise, on va dire, toute une imagerie provençalo-occitane avec des danses et un certain nombre de traditions qui reprend de plus en plus l'affection des jeunes dans la ville d'Aix, et c'est particulièrement palpable. Cette dynamique, ce n'est pas juste une affaire de folklore ou de patrimoine. Moi, je suis profondément persuadé que la revendication culturelle qui se dessine à échelle régionale, c'est une interrogation politique et plus globalement une remise en cause de l'excès de centralisme français, mais pas que. Depuis plusieurs décennies, une partie croissante de la population exprime sa méfiance à l'égard d'un système institutionnel qui est perçu comme excessivement centralisé. La France demeure l'un des États les plus centralisés d'Europe occidentale et c'est d'autant plus palpable quand on le compare à ses voisins espagnols ou allemands. Quand en Espagne, vous avez un système d'autonomie, on peut paraître un petit peu particulier ici. Un certain nombre de travaux ont montré que, par exemple, des crises comme les crises des Gilets jaunes mettaient au centre de leurs revendications des questions de décentralisation. Quand on parle de démocratie locale, quand on parle de rénovation des institutions, quand les Gilets jaunes revendiquent les référendums d'initiative populaire pour évoquer des élus, quand, voire même dans sa propre forme, les Gilets jaunes vont venir s'organiser à échelle très locale sur leur propre rond-point, il y a une volonté de rupture avec un pouvoir qui est interprété comme excessivement parisien. Expérience militante, je parle en tant que militant, toute personne qui a tendu un tract pour le Rassemblement National dans sa vie sait que, au-delà des questions de pouvoir d'achat ou d'immigration, l'électorat périphérique du Rassemblement National a cette tendance souvent à penser que l'intégralité des maux de ce pays viennent de Paris et c'est très commun d'entendre chez les électeurs sympathisants RN de base cette espèce de grogne anti-parisienne. Cette interrogation sur l'organisation du pays, elle se retrouve également dans l'opinion publique. Une nouvelle fois, plusieurs enquêtes ont montré récemment, et je pense notamment à une enquête qui date du début de l'année, qui est un véritable séisme en réalité quand on l'interprète, qui montre que les Français sont aujourd'hui majoritairement favorables à la création d'un système fédéraliste en France. Alors, le terme fédéralisme, il peut être chargé de tout un tas de connotations politiques particulières, diverses. On peut envisager le fédéralisme de plusieurs façons, mais en revanche, quand les Français s'expriment en faveur d'un fédéralisme politique, ou du moins de la transformation de la France en pays fédéral, il y a des idées qui lui sont, des principes qui lui sont toujours associés, les principes de subsidiarité, de proximité décisionnelle, et surtout, et je crois que c'est d'autant plus important parce qu'on peut le connecter à de nombreux enjeux, l'adaptation aux réalités locales. On ne gouverne pas à Paris comme on gouverne à Marseille. Donc, ce qui relevait autrefois de cercles régionalistes ou même d'indépendantisme très organisé dans les années 70 ou 80, devient comme une revendication peut-être moins doctrinale, mais plus implicite, infuse dans la population, et je crois que, évidemment, ça vient rejoindre la question des politiques culturelles. Évidemment, il faut quand même le poser sur la table, l'un des facteurs qui rend ce rêver d'identité régionale possible et évident, c'est que pour une partie des Français, la redécouverte des appartenances locales, elle s'inscrit en réaction aux transformations démographiques, migratoires, culturelles, sociales qu'elles ont amenées dans les dernières décennies. Face à l'immigration, à la mondialisation des modes de vie, à l'impression d'une homogénéisation croissante des sociétés européennes, certains citoyens cherchent dans leur héritage régional des repères qu'ils jugent plus stables et plus concrets car ils sont plus proches. Les identités régionales, on les redécouvre et elles deviennent des espaces de continuité historique, un petit peu des safe space, comme diraient les gauchistes, des cadres de transmission et parfois des refuges symboliques face à un monde perçu comme toujours plus mobile et plus standardisé. L'attachement aux langues régionales, aux traditions populaires, aux fêtes locales ou aux mémoires territoriales peut ainsi être interprété comme une volonté de préserver un héritage particulier dans une société de la mutation permanente. Et s'il est vrai quand même, pour nuancer mon propos, que ce renouveau régionaliste n'est pas forcément marqué à droite en permanence. Je pense notamment par exemple au renouveau régionaliste occitan, où vous avez des grandes manifestations qui sont massivement impulsées par la gauche. En revanche, il n'en reste pas moins que toutes les questions d'enracinement sont neutres et qu'elles témoignent globalement du climat identitaire de la politique dans ce pays à l'heure actuelle. Depuis des décennies, l'État français consacre des ressources considérables à la culture, on le sait, c'est même parfois d'ailleurs un petit peu la grogne d'une certaine droite. Et pourtant, on pourrait s'imaginer que justement ces subventions à la culture ne viennent pas s'inscrire dans des démarches suffisamment enracinées. Les cultures régionales ont trop souvent été longtemps regardées comme des survivances du passé, des particularismes appelés à s'effacer devant la construction d'une identité nationale uniforme. C'est le grand vice du jacobinisme français. Or, comme vous le disiez précédemment, moi je pense qu'on peut faire revivre des peuples et que précisément, les traditions régionales, elles doivent s'ancrer dans des réalités quotidiennes et des mythologies que l'on peut reconstruire. C'est même d'ailleurs tout le sens, par exemple, de l'œuvre mistralienne qui, quand Mistral va récupérer justement un peuple qui a perdu sa langue, perdu ses symboles et perdu absolument toute une mythologie, va lui créer une mythologie, lui offrir une mythologie avec des personnages, des mythes, des fêtes et des traditions qui aujourd'hui sont considérées comme infiniment enracinées et dont personne ne remettrait en question la légitimité. Donc, si jamais des régions avaient des identités moins marquées que certaines, on pourrait tout à fait leur redonner une fierté d'exister. Il suffirait de s'en donner justement les moyens et l'action politique qui va avec.
Merci Raphaël et Emma. Ah, vous vouliez conclure, pardon. Très rapidement.
Oui, pour conclure, les régions apparaissent définitivement aujourd'hui comme des espaces de continuité et de combat politique. Un peuple ne se grandit jamais en effaçant ses héritages. Il se grandit en les comprenant, en les transmettant et en leur permettant de continuer à vivre. Aujourd'hui, je pense que c'est une partie de la réflexion que la droite nationale doit porter et c'est l'une des revendications primordiales qui devraient être les nôtres.
Merci Raphaël. Deux petites remarques. L'Institut Iliade vient de publier une très belle vidéo qui s'appelle « Être alsacien ». On avait publié « Être breton »,« Être français »,« Être européen ». Je vous invite à la visionner, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Autre petite remarque, j'ai lu un article assez passionnant d'une proposition du maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, qui met les pieds dans le plat en proposant la création de provinces, 350 provinces, changeant un peu aussi le millefeuille administratif pour coller un petit peu plus à l'identité régionale. Donc, initiative à suivre. Hubert Calmette, le centralisme parisien, est-ce que c'est un obstacle à l'émergence de la culture vivante, enracinée dans une région, dans une province, dans une culture ? Et est-ce que la région est, comme l'a dit Raphaël et Emma, c'est safe place, cet endroit sécurisé où on va pouvoir s'épanouir ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, évidemment, le jacobinisme à la française est une tragédie pour le soutien aux cultures locales. Mais pour autant, il ne faut pas idéaliser les régions, parce qu'il y a aussi un jacobinisme infrarégional. C'est-à-dire quand vous avez des grandes régions, puisque là je rejoins totalement la position de Fromentin, des régions immenses désormais, hein, quand vous voyez à quoi ressemble Rhône-Alpes aujourd'hui, c'est une histoire de dingue, hein, on va de Aurillac à Lyon, tout cela n'a aucun sens. Quand vous avez d'immenses régions, définir une politique régionale, culturelle, enracinée depuis Toulouse, quand vous êtes en Occitanie, depuis Lyon, quand vous êtes en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, est une histoire de dingue. Donc, il n'y a pas, je crois qu'il ne faut surtout pas idéaliser une vision régionale qui, elle-même, finalement épouse les codes jacobins qui sont un peu dans l'ADN français depuis deux siècles et demi maintenant. Hein. Donc il y a cette problématique, je me permets de la souligner. Cela dit, elle est anecdotique par rapport au centralisme français en matière culturelle comme sur bien d'autres domaines. Et là, il y a une intelligentsia qui évidemment tranche sur pas mal de sujets, donne le ton sans idéologie véritable. C'est l'idéologie du vide hein, la plupart du temps. Lorsque le CNC et France Télévisions octroient 4 millions d'euros à Bernard-Henri Lévy pour des documentaires que personne ne va voir, hein, le dernier en date a fait 104 entrées, je crois, là on est évidemment sur un parti pris qui n'est pas idéologique, bien que les documentaires en question concernaient la guerre en Ukraine, donc on peut se dire qu'il y a peut-être derrière une impulsion de l'État, c'est clair. Mais la plupart du temps, on est sur des notions qui sont totalement désincarnées, abstraites, issues de cette classe politique qui n'a plus de vision du monde et qui aussi, entre la marchandisation du tout et, on va dire, la néophilie, pour reprendre des termes de Baudrillard, le nouveau pour le nouveau, la nouveauté pour la nouveauté, comme s'il suffisait de faire « nouveau » pour faire excellent. Hein. Et on va même jusqu'à cultiver le néant, hein, une espèce de nihilisme incroyable qui fait qu'on va s'émerveiller devant une toile monochrome ou aller s'émerveiller devant l'œuvre de M. Serrano en 87, hein, souvenez-vous, Peace Christ, hein, avec cette œuvre incroyable qui a obtenu pourtant un prix d'art contemporain aux États-Unis. Donc, il y a cette fascination pour le néant. Et Baudrillard, le même Baudrillard, disait d'ailleurs qu'il ne suffit pas de revendiquer la nullité pour être génial en matière d'art contemporain. Je crois que tout est dit quand on a dit cela. Et c'est vrai que c'est plutôt la tendance dominante de l'élite décisionnaire, hein, parisienne en matière de politique culturelle.
Je vais me tourner un petit peu vers Marguerite Frison-Roche qui réfléchit à ces questions institutionnelles. Est-ce que vous avez imaginé une forme de scénario idéal pour que peut-être que la réflexion est en cours, mais c'est vrai qu'on a parlé d'État, de centralisation, de région. On voit que les choses peuvent bouger encore. Quel est selon vous le bon niveau, le bon échelon pour faire vivre une culture, cultiver la voie de l'excellence dont vous avez parlé tout à l'heure? Est-ce que vous pensez aussi que cette centralisation avec une certaine caste un peu désincarnée est un obstacle? Comment voyez-vous les choses?
Oui, je pense qu'on est allé trop loin dans la centralisation, et c'est, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est un problème très français et qui se reproduit à une moindre échelle, c'est-à-dire que si on donne ce pouvoir à la région, il va faire exactement la même chose que les personnes à Paris. Je pense que moi, les deux échelons qui m'intéressent, c'est un, l'échelon municipal, donc c'est vraiment ce que peut faire le maire, parce que c'est celui qui est élu directement par ses administrés et qui est au plus proche pour pouvoir proposer des choses vraiment concrètes. Et, la région, en effet, et en plus maintenant avec des régions qui sont immenses, et donc c'est complètement absurde, je pense que le maire a une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus réaliste de ce qu'il peut faire, des budgets moindres peut-être, mais en tout cas des choses plus concrètes à proposer. Ça, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est celui qui est au plus proche des Français. Et le deuxième échelon, c'est l'échelon national. Là, je redeviens peut-être un peu plus française, mais je pense qu'il faut un ministère de la culture, il faut le repenser peut-être, mais un ministère de la culture puissant qui soit au service de tout le régalien et qui soit capable de parler aussi à l'international. Donc le ministre de la culture est capable de porter la vision de la France pour tous les territoires rassemblés et de la porter à l'international, avec vraiment l'idée que l'influence française passe par sa culture, le rayonnement de la France, l'économie française passe par sa culture, et après... Chaque maire décide là où il est.
Plus d'autonomie.
Mais en réalité, je ne pense pas qu'il faille changer beaucoup de lois. Il suffit simplement que les maires s'emparent du pouvoir qu'ils ont. Et ensuite, un gouvernement assez puissant et assez audacieux pour se dire on va mettre le paquet sur la culture, mais ce n'est pas forcément plus de financement, ce n'est pas forcément de nouvelles lois à écrire, c'est juste avoir une ambition assumée. C'est souvent ça ce qui manque.
Très rapidement, Gabriel Fouquet.
Mais ça implique aussi que l'État ait donc une idée très précise de ce qu'il entend par le mot culture.
Oui, oui, bah bien sûr. Et ça nécessite qu'il ait une
vision à moyen terme et long terme.
Oui, c'est aussi un courage politique. Enfin, ça nécessite beaucoup de choses que n'ont pas eu les derniers gouvernements. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est faisable si on a une vision claire de la culture, si on sait qu'on va investir là-dedans et qu'on a un courage politique. Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille changer quelques lois que ce soit, et je ne pense même pas qu'il faille augmenter le budget du ministère de la Culture. On peut même le réduire. Mais encore faut-il avoir une vision claire de la culture, de ce qu'on veut défendre. Et quand on a des hommes politiques qui ne sont même pas capables de parler un français correct et qui parlent un franglais... Ça commence par des choses toutes bêtes, quoi. Et bref, pardon, vous voulez dire...
Là, vous avez été négative. Je ne vous félicite pas. On était pourtant sur une bonne pente.
Je ne suis pas négative, je suis critique.
Chers amis, à quelques jours du solstice d'été, et quelle belle fête qui nous vient du fond des âges, Pierre Le Prince nous propose d'écouter A.A. Williams, qui est une chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste britannique de formation classique. Elle mélange avec une grande sensibilité folk, post-rock et influence métal dans une musique souvent sombre, atmosphérique et émotive. Sa voix puissante et vulnérable à la fois porte des compositions intimes et intenses. Nous écoutons à présent Wolf, extrait de son nouvel album Solstice.
Lost in a dream again, I remind myself that I have only left the tiniest mark on your heart, a shadow where there shouldn't be.
libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne.
Autour d'un verre, ce sont les poèmes de Frédéric de Saint-Quio, interprétés par Gabriel Fouquet. C'est une chronique où Frédéric de Saint-Quio nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, chers auditeurs de Radio Courtoisie, elle vous propose un texte intitulé « Le masque ». Frédéric, venez à moi un court instant. Sans vouloir passer pour un mal appris gênant, je me demande quelle enfance a précédé l'âge adulte d'une inénarrable beauté, qui m'apprend chaque jour à vivre intensément dans les plus simples aspects et grands raffinements. Vous mêlez de concert la familiarité, la noble rigueur sans être fatigué. Vous n'avez jamais faim, jamais froid, jamais chaud, et semblez au-dessus de ce qui crée nos maux. Vous a-t-on jamais vu vous plaindre de la soif? Vous dissimulez tout sous votre prude coiffe. Quel est votre secret pour rire en même temps avec les rois, les ducs, les chefs et les mendiants ?
Romain, un instant ne pourra jamais suffire pour discuter d'un temps qui m'a tant fait souffrir. Vous dissociez l'adulte et l'enfant que j'étais. C'est déjà malgré vous un tout premier méfait. À l'âge de 4 ans, pour sauver mes parents, l'enfance me quittait pour les habits trop grands d'un être responsable, arraché à ses jeux pour satisfaire l'un, pour épargner les deux. Le lien ne se maintint que sous le même toit. Avec de tels parents, ce fut chacun pour soi. Le silence empêche les fautes de langage. J'appris à bien me taire, à n'être qu'une image. Régner sur son seul ministère, anesthésie. Mon mutisme était mu par un amour qui crie. Je devins mature et gagnai en expérience quand d'autres n'avaient jamais vu la vigilance. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une chance. De mon histoire, c'est une des conséquences. Lors, je développais un sens émotionnel occasionnant des rôles situationnels que j'incarnais selon le vent et le contexte. Un bélitre, un savant, hop, j'adaptais mes textes.
À vous écouter, je me trouve partagé. J'oscille entre l'admiration et l'anxiété. Où se situe le jeu? Où se situe le moi? Ne vous perdez-vous pas dans tous ces aléas? À quel moment le masque abdique et se retire? Devez-vous le porter chaque fois pour séduire?
Romain, je me permets de vous couper ici. Je parle du passé et point de notre vie. Ne confondez pas les ressources dont j'usais petite et autrefois pour protéger mes plaies avec ma manière d'être au monde actuel, légère comme la vénérable hirondelle. Lente à la colère et rapide à l'allégresse, je ne compte plus que les heureux jours de liesse. Je me connais si bien qu'allant vers la vieillesse, je déguste mes maux, avalant la tristesse qui m'a mise en faillite à l'intérieur de moi, la parent de couleur et motif qu'elle n'a.
Vous devez arriver d'un milieu hauturier pour agir avec ce comportement altier. C'est tout à votre honneur, vous revenez de loin. Les lames, les ressacs ont marqué vos besoins. C'était un poème de Frédéric de Saint-Quio que nous saluons bien et nous reprenons la discussion sur la politique culturelle avec nos invités, Marguerite Frison-Roche et Hubert Calmette, avant l'arrivée de Baptiste et Stanislas d'ici peu avant la fin de cette émission. Alors peut-être une question un peu plus intime, un peu plus sensible, un peu plus personnelle. Justement, est-ce qu'il y a des œuvres, du spectacle vivant, qui vous ont marqué et qui, d'une certaine façon, ont symbolisé une forme de renouveau de la culture, ou soit le renouveau, soit une forme de vivacité, de vitalité qui vous a ému, qui vous a dit « Tiens, il y a de l'espoir, ce pays n'est pas mort, il peut aller au-delà de la culture gadget, il peut aller au-delà du simple comportement de consommateur, il y a encore de la vie. »
Moi, l'exemple qui me vient en premier lieu, c'est j'ai grandi dans le sud-ouest, dans une ville d'une 20 000 habitants qui s'appelle Villeneuve-sur-Lot. Et il y avait un théâtre, là c'est assez exceptionnel, c'est l'héritage d'un grand donateur qui un siècle plus tôt avait fait construire un théâtre. Et mes parents m'y ont emmené assez souvent et les places n'étaient pas chères. Et c'était très bien parce qu'on était beaucoup d'enfants. Et je me souviens que les places étaient toujours, enfin le théâtre était toujours plein, alors même qu'on, c'est pas forcément un truc local, mais il y avait des troupes de passage qui jouaient des grands classiques. Et quand c'était des grands classiques ou quand c'était des pièces, des comédies contemporaines, c'était toujours plein. Et moi, je me suis fait une partie de mon éducation dans ce théâtre, alors qu'on pourrait dire que c'était pas accessible. Que voilà. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite.
Hubert Calmette, est-ce qu'il y a la même question ?
Une expérience très récente. J'ai découvert dans mon beau département, l'Aveyron, le plus beau département de France, avec le Lot-et-Garonne, évidemment, un lieu exceptionnel dans le nord Aveyron, à Cantouin, le Musée international de la Cornemuse, ce qui est quand même assez incroyable. On est vraiment au milieu de nulle part, là. On est aux confins de l'Aubrac. Et là, vous avez toutes les cornemuses possibles et imaginables, tous les styles de cornemuses. Et la légitimité de ce lieu, c'est qu'il existe dans le folklore rouerga, aveyronnais, un instrument qui s'appelle la cabrette, qui est évidemment une forme de cornemuse. Et donc ce lieu a voulu finalement collecter tout ce qui existait d'instruments de ce type en France et au-delà, en Europe, puisque évidemment la Julian Pipe et d'autres instruments de ce type existent en Irlande et ailleurs. Et donc c'est un lieu incroyable, improbable, au milieu de nulle part. Et la preuve qu'au milieu de nulle part, eh bien, on peut faire de l'aménagement du territoire intelligent en faisant vivre une tradition culturelle.
Très bien. Gabriel Fouquet, je me tourne vers vous. Est-ce que...
C'est un peu difficile comme choix, mais je vais retrouver Marguerite. Il s'avère que nous avons quand même beaucoup de points communs. Moi, j'ai eu la chance de faire du théâtre beaucoup. Et j'ai grandi en partie à Chartres pour des raisons professionnelles, puisque je suis bretonne et compte bien le demeurer. Malgré tout. Et je dois saluer vraiment ce théâtre qui proposait autant des initiations que beaucoup de mise en scène, y compris de création contemporaine. Et j'ai fait mes premiers pas sur scène avec eux. Et je reste très profondément attachée à cette maison. Le directeur du théâtre de Chartres est resté un ami. Et effectivement, ce sont des endroits magnifiques. Il faut imaginer ce que c'est à hauteur d'enfant, que ce soit pour le ballet de danse classique de ma petite sœur, le récital de violon de mon autre sœur ou le spectacle que j'ai dû infliger à mes parents, de se retrouver dans un théâtre à l'italienne avec une acoustique exceptionnelle. Et en fait, je vous assure que quand vous jouez sur une scène de cette taille-là, ou vous voyez un spectacle comme ça, je pense à une très belle adaptation des Liaisons dangereuses, par exemple, ben vous avez envie de continuer à aller au théâtre. Et donc c'est tout ce que je souhaite aux troupes itinérantes, d'avoir des opportunités pareilles. Et il y en a une autre qui m'a touchée, et je la donne rapidement, et je te cède la parole, Romain. C'est un festival monté par des Anglais en Anjou. Ce sont des amoureux d'opéra, et ce festival existe toujours, et qui en fait ont un immense manoir dont ils ne savent pas quoi faire. Et donc tous les ans, ils accueillent une troupe de théâtre d'opéra amateurs qui monte un grand classique de l'opéra, avec des musiciens venus de toute l'Europe, des jeunes musiciens qui viennent faire leurs armes là, et c'est merveilleux. Vous êtes au milieu du jardin de l'Europe, hein, l'Anjou, et on vous joue la Traviata, et ça vaut tous les couchers de soleil du monde.
Moi, il y a une œuvre qui m'a marqué. J'ai trouvé que c'était un bon symbole. C'était la magnifique sculpture d'Ulysse de Christophe Charbonnel.
Ah,
qui a été installé au Sable d'Olonne. Et je pense, je ne suis pas rentré dans le détail, qu'il a dû bénéficier d'un dispositif existant dans les différents outils.
C'est une commande publique, c'est une vraie commande.
C'est une commande publique avec donc un maire qui choisit une forme de courage, une forme de beauté. Ça a très rapidement trouvé son public. Je pense que ça peut faire florès. Et alors, c'est vrai que quand on se balade et qu'on voit les croûtes qui sont soit sur les ronds-points, soit les commandes publiques horribles qui sont faites par certains maires, ça redonnait un petit peu d'espoir. On peut avoir de belles sculptures qui nous parlent, qui nous viennent du fond des âges. Donc ça m'a marqué, ça m'a donné aussi de l'espoir. Voilà, je vous avais dit Marguerite, je vous avais dit Hubert, le temps est court, c'était intense. Vous avez pu délivrer quelques messages aux auditeurs de Radio Courtoisie. Nous vous remercions. Restez avec nous si vous le souhaitez. Nous recevons maintenant Stanislas et Baptiste du groupe Les Natifs. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, merci.
Je souhaitais vous recevoir car vous avez vécu un épisode tout à fait particulier et assez inquiétant sur l'état des libertés publiques en France, puisque vous étiez organisateur en tant qu'association d'une conférence d'un auteur, penseur américain qui s'appelle Jared Taylor, qui devait intervenir à Paris. Et là, s'est enchaîné finalement tout un circuit politico-policier juridique qui vous a amené à devoir déménager votre conférence et à devoir finalement l'annuler. Est-ce que, en deux mots pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'auraient pas suivi cette histoire, vous pouvez très rapidement nous la résumer ?
Alors je vais poser le contexte et puis je laisserai Stanislas reprendre après pour un peu le déroulé de la journée parce qu'il était au premier horloge pour certains des éléments. Donc comme tu l'as très bien rappelé Romain, nous devions recevoir Jared Taylor, donc essayiste américain, pour amener des nouvelles thématiques, un petit peu rafraîchir la pensée identitaire, apporter de nouveaux éléments. Mais ce dernier était défavorablement connu des services de la préfecture. Et donc on avait prévu cette conférence le 3 juin. Et le jour même, on est notifié de l'interdiction de cette conférence. Et je vais laisser Stanislas reprendre sur cette partie.
Alors quel était l'objet de la notification ?
Alors en fait déjà il y a aussi la façon dont la notification m'a été dont j'ai été informé finalement de cette dernière.
Vous êtes responsable légal de l'association.
Je suis porte-parole en fait. D'accord. De l'association, donc je suis déjà connu très fréquemment des services de police malheureusement. Et donc moi j'étais dans un bar en fait le jour de la conférence. Il était à peu près 15h30, 16h quand je reçois un appel sur mon téléphone portable où on m'indique que la personne qui m'appelle est la police nationale. Donc je réponds. Et la police me dit « Bonjour monsieur, vous êtes bien dans cette rue-là », en m'indiquant ma localisation. Donc déjà, c'est extrêmement inquiétant de voir que
vous êtes
moi
tracé.
Qui étais tranquillement en train de boire un café, la police connaissait ma localisation. Donc ils me disent « Ne bougez pas, on arrive, on a un document à vous remettre concernant votre conférence ». Donc moi, j'attends. Effectivement, 10 minutes plus tard, il y a une voiture en civil qui arrive. Donc là, on me notifie de l'interdiction de la conférence de Jared Taylor qui devait se tenir à Paris dans une salle qu'on avait louée au motif qu'elle pourrait présenter, hypothétiquement, il y avait des suspicions en fait, de troubles à l'ordre public de manière immatérielle.
Alors là, il faut faire une pause. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est un concept orwellien. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble immatériel à l'ordre public immatériel ?
Non, ben c'est là toute la question qu'on se pose. J'en appelle à tous les juristes parmi les auditeurs s'ils peuvent nous éclairer. Non, mais blague à part, je trouve ça vraiment inquiétant. Le mot orwellien est justifié. L'Institut Iliade avait déjà été victime d'une telle censure qui avait été jusqu'au Conseil d'État. Conseil d'État qui n'avait pas donné raison malheureusement à l'Institut Iliade. Et aujourd'hui, on en est un peu la victime par jurisprudence, j'ai envie de dire. Mais voilà, il n'y a même plus la présomption d'innocence. Tout de suite, nos idées, ce qu'elles représentent, sont d'office coupables. On est d'office considéré comme délinquant. Et c'est sûr que c'est très inquiétant, hein, parce que ce cadre du « oui, on peut exercer sa liberté d'expression, mais bon, il y a certaines limites, on ne sait pas trop. » Donc, non, c'est
plus qu'inquiétant. Petite précision, l'Institut Iliade a vécu un peu la même situation, a mené 3 procédures, en a perdu 2 et en a gagné 1 contre le préfet de police de Paris, qui est désormais ministre de l'Intérieur,
Monsieur Nunez.
Donc c'est vrai que c'est surprenant que malgré cette défaite juridique, il insiste dans cette voie que le droit répugne hein, d'une certaine façon.
Oui, après Monsieur Nunez, donc nous on a eu beaucoup à faire à lui. Comme vous d'ailleurs, parce que, bah, comme vous l'avez rappelé, il était préfet de police de la ville de Paris, et donc au cours de l'exercice de ses fonctions, il a été amené à de nombreuses reprises à venir interdire des marches, des rassemblements, des manifestations identitaires, patriotes, au sens large, et pour nous, en tout cas, il a perdu systématiquement, il n'a jamais gagné contre nous. Quand nous avons déposé un référé liberté, on a toujours été... donné gagnant à l'issue. Donc je pense qu'il avait aussi une petite rancœur personnelle. Et il faut savoir que, du coup, monsieur Nunez, parce qu'on se doute que ça vient de lui, cet ordre, donc la conférence était interdite à Paris, dans les Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis.
C'est-à-dire, ils vous disent, dans ces 3 départements de la petite ceinture, vous n'avez pas le droit
de vous réunir pour assister à une conférence de Jared Taylor, alors que, je le rappelle, c'était dans un lieu privé, on avait loué une salle. Il y avait des participants qui avaient fourni un prix d'inscription. Et je pense que là où il y a eu un petit couac du côté de la préfecture, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé que nous, on était capable d'aller au-delà de ces limites. Donc en fait, on s'est déplacé dans les Yvelines, qui n'était pas un département qui était soumis à cette interdiction de la conférence. Et donc on a organisé, encore une fois, il était 15h30, 16h, et la conférence était prévue pour 20h. Donc on a déplacé en toute hâte nos participants, le conférencier, et la salle, on les a déplacés dans les Yvelines, on a trouvé un bar à Versailles.
Et donc, on s'est rendu. Et en fait, je pense que là, il n'y avait pas forcément eu de... ils n'avaient pas anticipé. Ils ne pensaient pas qu'on allait quand même y aller. Donc, je vais te laisser continuer pour le moment, la confrontation finalement qui a eu lieu.
Non, mais c'est un peu la surprise du chef à ce moment-là. Hein. J'ai envie de dire, la conférence va pour débuter. Le seul morceau qu'on aura pu avoir de cette conférence, c'est M. Taylor qui nous raconte donc son souvenir d'avoir visité Versailles à 9 ans. Et à ce moment, précisément, la police débarque dans la salle de conférence. Bien sûr, tout équipé, etc. Aussi, la brigade anticriminelle qui était évidemment présente pour nous, hein, de par le danger que l'on représentait. Et donc, ils viennent notifier à M. Taylor l'interdiction de la conférence et aussi à Stanislas. Donc, contrôle des papiers pour M. Taylor, voilà, comme un vulgaire délinquant, comme un dealer, etc. Alors que bon, on est face à un gentleman bien éduqué, civilisé, qui reste très digne, hein, malgré cette intervention.
Je crois qu'il a été surpris et choqué, il s'attendait quand même pas à ça.
Tout à fait, c'était une première surprise. C'est vrai que bon, la conférence est lancée, on se dit que c'est bon, ils vont pas nous rattraper en moins de 2 heures, eh bien si. Et donc oui, contrôle des papiers, disais-je, et oui, d'abord une surprise, hein, évidemment, une surprise et une salle à un public interloqué à ce moment-là, qui n'était pas que constitué de militants. On avait ouvert la conférence au public sur inscription. Et beaucoup de gens nous ont fait la remarque après coup qu'ils étaient surpris, hein, de voir une telle dépense de moyens à notre égard, de tels moyens employés pour empêcher une simple conférence.
Jean-Yves Le Gallou parle de d'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire un État qui est faible avec ceux qui considéraient comme forts, c'est-à-dire les casseurs, etc., et fort avec les quelques groupes qui tentent de s'ébrouer et de changer la donne comme le font les natifs.
Tout à fait, c'est exactement le terme que j'ai employé dans le cadre d'une interview auprès de l'Institut Georges Valois au sujet de cette question-là. C'est tout à fait ça, on voit qu'il y a une débauche de moyens, qu'on trace certains de nos militants à heure par heure pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, etc., pour, encore une fois, interdire une simple conférence. Bon, voilà, peut-être qu'ils sont effrayés par le fait qu'un public jeune puisse être réceptif aux idées de Jared Taylor. Mais encore une fois, moi j'aimerais voir une telle efficacité dans le système juridique auprès d'autres problématiques. Hein.
Bon, allez mener une forme de réponse, de contre-attaque, ou c'est compliqué pour une petite association? Enfin, il faut de l'énergie, il faut des moyens, il faut des avocats, ou est-ce que vous en restez là pour cette fois-ci?
En fait, il faut se rendre compte que, du coup, quand moi j'ai été notifié de la première interdiction, on a songé, on s'est dit, est-ce qu'on peut porter un recours? Mais en fait, de 16h pour 20h, et ça a été fait exprès pour ça, hein. Ça a été fait exprès pour que la conférence, on puisse pas déposer un référé liberté pour demander à ce qu'elle se tienne. Donc en fait, dans l'immédiat, le jour de la conférence, c'était pas possible d'aller contester cette interdiction. Et en fait, à terme, nous, effectivement, comme vous venez de le rappeler, ça demande quand même des moyens financiers pour une issue qui n'est pas forcément, qui ne sera pas forcément très proche. Et on n'est pas forcément sûr de sortir vainqueur.
Il nous reste
parce que...
10 secondes, je vous remercie. Merci voilà. Donc à Stanislas et Baptiste de témoigner. Ce sont les natifs, on les remercie. Que les juristes attaquent ce concept d'ordre public immatériel, il y a urgence. Merci à tous et nous vous disons au mois prochain. Merci à nos invités.
Merci. Merci.
Venez d'entendre le Libre Journal du lundi soir « Vive la civilisation européenne » dirigé par Romain Petitjean, assisté de Gabriel Fouquet, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 8 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.